Bien, bonjour à tous. Merci d'être restés dans la salle. Donc Jean-Marie Tarascon vous a déjà introduit un petit peu la problématique pour ce qui est du lithium, en mentionnant qu'on avait besoin de lithium pour le stockage d'électricité et que les besoins allaient augmenter à un rythme assez vertigineux. Hein. Si on parle de 20% d'augmentation par an, ça veut dire qu'on double quasiment les besoins tous les 4 ou 5 ans. Il y a un autre lien qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on a besoin de matières premières pour le domaine de l'énergie, on a besoin aussi beaucoup d'énergie pour fabriquer ces matières premières. Donc c'est des enjeux qui sont couplés, et c'est de ça que je vais essayer de vous parler maintenant, en essayant d'insister sur le rôle des matières premières pour la transition énergétique, pour notre futur énergétique, mais également, d'une manière plus générale, pour le développement économique et social au niveau mondial. Alors, brièvement, je vais parler un petit peu du cadre de la problématique. On va parler des besoins en ressources minérales pour la transition énergétique en prenant trois scénarios énergétiques qui ont été publiés et qui vont à un horizon de 2050. On essaiera de mettre en regard ces besoins par rapport aux capacités de production estimées, et je ferai un focus sur des ressources dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'a priori, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de menace sur leur approvisionnement, au moins dans un futur court. Mais c'est des ressources qui sont utilisées en quantité très importante. Il s'agit du ciment, de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. On parlera des besoins énergétiques pour leur production et puis quelques futurs possibles. Comment est-ce qu'on peut avoir des estimations et pour ça il faut des modèles et je présenterai un peu ça avec un lien faible mais existant avec l'économie. Voilà. Alors bon, vous savez tous que les accords de Paris, hein, de la COP21, prévoient d'atteindre la neutralité carbone au niveau mondial d'ici 2050, ce qui implique au moins pour les pays développés que nous sommes, de transformer en profondeur notre système de production, de transport, éventuellement de stockage, et puis d'utilisation d'énergie. En une quarantaine d'années et dans un contexte de la demande croissante, avec une très forte croissance, à la fois en énergie et en matières premières au niveau mondial. Alors, pour illustrer ça, sur cette figure sont reportés 24 indicateurs de l'activité humaine. Il y a des choses très différentes hein, qui sont reportées ici, la population mondiale, la population urbaine, le produit intérieur brut, le nombre d'espèces en voie de disparition, la quantité d'eau utilisée, le nombre de restaurants McDonald's, le nombre de véhicules motorisés, etc. Et ce qu'on voit très bien sur ce graphique, c'est tout ce qui a une valeur dans nos sociétés en termes de bien-être et en termes de développement semble avoir une croissance exponentielle, en tous les cas, qui démarre à peu près au niveau de la révolution industrielle et qui se poursuit encore. Alors, il est bien évident qu'une croissance exponentielle dans un monde fini, ça n'a pas de sens, hein, ça a une limite. Il y a bien un moment donné où il faut une stabilisation qui viendra certainement. La question, une des questions, est de savoir si cette stabilisation sera forcée par différents facteurs externes de type catastrophe naturelle, guerre, on peut imaginer plein de choses, ou alors si on aura les moyens de stabiliser nous-mêmes cette augmentation. Alors, parmi ces indicateurs, il y en a deux qui sont très importants, évidemment, hein, la population mondiale. On était 2 milliards dans les années 60, on sera probablement 9 milliards d'ici 2050. Et puis, l'augmentation du produit intérieur brut qui, au niveau mondial, qui donne une idée de notre niveau de vie. Donc, évidemment, quand on combine ces deux choses, ben, on doit s'attendre à avoir une augmentation de la quantité d'énergie utilisée au niveau mondial, et sur cette diapositive ici, la quantité de matières premières utilisées sont reportées ici l'aluminium. Donc vous voyez une croissance très importante. Hein. Depuis le début des années 2000, on a doublé la consommation d'aluminium. On est sur des taux de croissance de l'ordre de 5-6% par an. Mais c'est la même chose pour quasiment tous les métaux, dont les métaux de base. Ici, le manganèse, le zinc et le cuivre. Alors il y a un effet d'échelle, mais tous ces métaux présentent la même croissance. Alors il y a deux grands types de matières premières. Hein, qu'on peut appeler les matières premières de base, ciment, acier, aluminium, cuivre, avec une augmentation qui est importante. Hein, pour l'acier et le béton, on est à 6 ou 7% par an. Je vous rappelle juste que 6% par an, ça veut dire qu'en 12 ans, on double hein, à la fois la consommation et la production. Alors la raison, en tous les cas depuis le début des années 2000, la raison de cette explosion, clairement, est due au développement de pays en voie de développement, qu'on appelle couramment les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et Chine en première ligne. La Chine actuellement consomme et produit la moitié de l'acier consommé mondialement pour bâtir son infrastructure de base, pour urbaniser le pays, etc. Et puis à côté de ces matières premières de base, on a ce qu'on appelle classiquement les petits métaux ou les métaux utilisés dans les secteurs industriels de haute technologie. Alors les petits métaux, bon, c'est des métaux qui sont produits à moins de 100 000 tonnes par an. Hein, donc le lithium en fait partie, par exemple. Hein, et puis il y en a plein d'autres. Dans trois secteurs industriels, typiquement, le premier, c'est la production d'énergie renouvelable avec, par exemple, 200 kilos de terres rares par mégawatt de puissance dans les turbines d'éoliennes, dans les aimants permanents qui sont dans les éoliennes de dernière génération, du gallium, de l'indium, du sélénium qu'on utilise dans les technologies multicouches panneaux photovoltaïques, le gallium qu'on retrouve dans les luminophores, notamment dans les LED, dans les capacités des appareils électroniques. Au début des années 80, dans les années 80, il fallait 5 métaux pour produire le chip d'un ordinateur. Actuellement, il en faut une cinquantaine. Hein, on couvre quasiment tout le tableau périodique. Donc le premier secteur, hein, c'est les énergies renouvelables. Le deuxième, c'est le secteur, on va dire, d'information, communication. Et puis, il y a plein d'autres secteurs avec une myriade d'applications. Un exemple ici, dans le domaine de l'automobile. Une automobile, actuellement, contient de l'indium, du gallium, des terres rares et toute cette myriade de petits métaux, où on voit donc des augmentations de la production de l'ordre de 10-12% par an, donc du double des métaux de base. Alors, bon, cette explosion de la consommation et de la production a au moins deux conséquences. La première, c'est qu'il faut de l'énergie pour produire ces matières premières, et beaucoup d'énergie. Donc, une augmentation de la consommation d'énergie. Pour fixer un peu les idées, plus de 20% de l'énergie utilisée au niveau mondial pour le secteur industriel est utilisée pour la seule production d'acier et de ciment. Et ça, c'est responsable de à peu près 50% des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, du milieu industriel. La consommation d'énergie et l'intensité énergétique du domaine minier et du domaine de mineral processing en Australie augmentait de 6% par an en 2010. Et je répète, 6% par an, on double tous les 12 ans. Une tonne de CO2 est générée par tonne de béton, de ciment, produit, 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier et environ 70 tonnes de CO2 par tonne de néodyme produit, le néodyme qui est une terre rare qu'on utilise dans les aimants permanents. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que on a, comme Jean-Marie Tarascon l'a mentionné à l'instant, des besoins en ressources minérales pour toute l'infrastructure d'énergie. Alors un exemple que je vais vous donner maintenant. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la transition énergétique devrait s'accompagner d'un changement de nos systèmes de production d'énergie. On devrait aller vers des énergies renouvelables, ce qui est vraiment souhaitable. Il y a deux problèmes pour les énergies renouvelables. Le premier, dont on parle souvent, c'est que c'est des énergies qui sont intermittentes. Le deuxième problème, ou la deuxième difficulté, c'est que c'est des énergies qui sont très diluées. Donc, pour les capturer, il faut des grandes infrastructures. Un exemple de ces infrastructures, ça c'est une éolienne, une des éoliennes de dernière génération, hein, fabriquée par Alstom, 6 MW de puissance. Cet engin, ça fait 170 mètres de haut, si on compte les pales ici. Ça contient 1500 tonnes d'acier, un aimant permanent qui contient à peu près une tonne de terres rares. Donc 1500 tonnes d'acier pour 6 MW de puissance, ça nous fait une intensité d'acier de l'ordre de 250 tonnes par mégawatt, qu'on peut comparer au nucléaire et à l'hydroélectrique. Donc l'hydroélectrique, on est entre 20, on va dire, là ça c'est un peu optimiste, on est entre 20 et 40, et le nucléaire entre 60 et 80 tonnes par mégawatt. Et il faut 600 éoliennes pour produire maintenant la même énergie, donc en water, hein, qu'une centrale nucléaire de 1300 mégawatts. Alors, on peut faire le même calcul, regarder l'intensité acier pour différents modes de production d'énergie, d'électricité. On démarre ici de l'énergie hydroélectrique, le nucléaire, le gaz, le charbon, l'éolien onshore, offshore, le photovoltaïque sur toit, le photovoltaïque en ferme, et puis en ferme avec des trackers qui permettent de suivre le soleil, et on termine là-haut par le solaire à concentration. Et donc, ce qu'on voit d'une manière générale, alors bon, la première observation, c'est qu'il y a des barres d'erreur ici qui ne sont pas vraiment des barres d'erreur. D'ailleurs, c'est le domaine d'intensité matière qu'on peut trouver dans la littérature qui sont très grandes. Hein. Donc, les technologies évoluent, elles évoluent rapidement. Il y a des technologies différentes, mais on peut prendre quand même une moyenne. Si on prend ces moyennes, on voit que pour les énergies renouvelables, hormis l'hydroélectrique ici, pour ces énergies renouvelables, on a une intensité acier qui est supérieure à l'intensité acier des centrales brûlant des combustibles fossiles. Alors, on peut faire cette même estimation pour le cuivre, pour l'aluminium, pour le verre, pour le béton. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on observe la même chose pour ces différents métaux. Et donc, une fois qu'on a estimé cette intensité matière, eh bien, on peut regarder selon différents scénarios de transition énergétique ou de futur énergétique qui existent, quels sont les besoins cumulés, notamment en métaux, pour assurer ces scénarios. Alors, j'ai pris trois scénarios que je vais discuter un petit peu dans la suite. Le premier a été publié par l'Agence internationale de l'énergie en 2010. Il est assez prudent. 36 pétawatt-heure électrique en 2050, donc 40% assurés par du renouvelable. Le scénario Ecofys, qui lui prévoit une trentaine de pétawatt-heure électrique, dont 100% est assuré par le renouvelable. Et puis le dernier scénario, qui est complètement irréaliste parce qu'il prévoit non seulement que toute l'électricité sera produite avec des sources renouvelables, mais en plus que la seule source d'énergie en 2050 sera l'électricité, ce qui est évidemment très peu réaliste, mais ça va nous donner quand même des bornes supérieures, une limite supérieure sur ces besoins matières. Et donc, comme on utilise uniquement de l'électricité, eh bien, on a évidemment une production ici qui est beaucoup plus importante que dans les deux autres scénarios. Alors, bon, brièvement, les résultats, je les montre ici pour le cas du cuivre. Il s'agit de la quantité de cuivre cumulée que l'on doit produire d'ici 2050 hein, pour suivre le scénario proposé. On s'aperçoit que dans le cas du scénario Garcia-Olivares, en rouge, on est à 210 millions de tonnes de cuivre qui doivent être fournies d'ici 2050, ce qui correspond, ces 210 millions de tonnes, à 13 fois la production 2010 qui est représentée par cette ligne grisée ici. Dans le cas des autres scénarios, on est un peu plus raisonnable, 70 millions de tonnes pour le scénario Ecofys, 32 millions de tonnes pour le scénario de l'Agence internationale de l'énergie. Et puis, on a des tendances évidemment qui sont similaires pour l'acier et pour l'aluminium, où on est entre 3 et 6 années de production. Ici, on monte, comme dans le cas du cuivre, à une dizaine d'années de production. Alors, bon, pour l'observation qu'on fait au premier ordre, c'est que d'ici 2050, hein, je répète, ces quantités cumulées d'acier, d'aluminium, de cuivre, de ciment, pour la production d'énergie renouvelable éolienne et solaire, pourraient être équivalent à 13 années de production 2010. Alors, bon, c'est un chiffre qui peut paraître énorme. Il ne faut pas oublier que la production augmente au cours du temps. Donc, j'ai pris 2010. Si j'avais pris 2015, les quantités auraient été un petit peu moindres. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas seulement une question de réserve. C'est un stock hein, qu'il faut produire ici. Mais il faut être capable d'assurer le flux de production. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie quelquefois. Pourtant, c'est très important de bien avoir ça en tête. Donc, ce qu'on veut faire, grosso modo, c'est passer de ce système-là à un système de ce type-là, avec des énergies renouvelables, en 40 ans. Pour faire cette transition, il faut des matières premières. Donc j'en ai parlé avant, hein, de l'acier, du béton, du cuivre, etc. Ces matières premières sont, dans un premier temps, tirées du sous-sol. Au bout d'un certain temps, qui correspond à la durée de vie de ces machines, qui est de l'ordre de 20 à 30 ans, hein, pour les éoliennes et les panneaux solaires, les matières premières qui sont contenues dans ces appareils rejoignent un nouveau stock, qui est le stock des produits en fin de vie. D'accord ? Ces éoliennes et ces panneaux solaires en fin de vie peuvent être recyclés et la matière peut être utilisée pour continuer à bâtir notre parc de production d'énergie. Et puis, au bout de 20 ans, à nouveau, on peut recycler ces matières premières et on rentre dans une boucle vertueuse ici qui n'a pas de fin si on ne perd pas de qualité à chaque recyclage, évidemment. Alors ça, il ne faut pas oublier non plus que le recyclage à 100% est évidemment impossible. Donc à chaque boucle de recyclage, on a une certaine quantité qui vient nourrir un dernier stock ici, qui est le stock de matières premières perdues, auquel on n'aura plus jamais accès. Et puis ce stock de produits en fin de vie peut être nourri également avec les centrales brûlant du combustible fossile actuellement que l'on pourrait éventuellement recycler. Alors, quand on fait ce type de modélisation, je vais vous montrer quelques résultats ici pour le scénario Ecofys, hein, où j'ai dit qu'on avait 70 millions de tonnes de cuivre à produire d'ici 2050. Voici les flux. Donc, le flux en rouge ici, c'est la quantité de matière première primaire qu'on va tirer du sol. C'est la quantité de cuivre qu'on doit produire annuellement, donc c'est des tonnes par an ici. La quantité en verte, c'est le cuivre que l'on va pouvoir recycler de cette infrastructure. La quantité en grise est le cuivre perdu. Donc finalement, il faut qu'on produise plus, évidemment, pour combler ces pertes. Alors ce qui est important de noter sur cette figure, c'est que entre 2020 et 2050, on a une augmentation ici de la production annuelle de l'ordre de 2,4 millions de tonnes par an pendant 30 ans. Eh bien, cette augmentation, c'est exactement la même qu'on a observée au niveau mondial, toutes applications industrielles confondues, entre 1970 et 2000. Donc ça veut dire que l'augmentation de la production, alors c'est valable pour le cuivre, mais c'est également valable pour le ciment, pour l'aluminium, pour le fer. Donc cette augmentation de production uniquement pour le secteur de génération d'énergie renouvelable est équivalente à la croissance mondiale 1970, toutes applications confondues. Et là, ça donne quand même une idée de l'ampleur des enjeux qui sont associés avec cette production. Alors pour continuer dans pour essayer d'illustrer ce que signifient ces chiffres, je montre ici la photo d'une mine, c'est la mine Kennecott en Utah, qui est une mine de cuivre qui a fonctionné pendant plus de 100 ans. Cette mine fait 3 km de long, 1 km de large, 1 km de profondeur. Donc c'est quelque chose qui est gigantesque et on dit, moi je ne suis pas allé vérifier, mais on dit que c'est avec la muraille de Chine le deuxième objet fabriqué par l'homme qui est visible de l'espace. Voilà. Je crois que la muraille de Chine n'est pas visible de l'espace, mais bon, c'est ce qui se dit. Alors, est-ce que vous avez une idée de combien de cuivre on a pu sortir de cette mine en 100 ans ? 18 millions de tonnes. 18 millions de tonnes, ça représente une année de production de cuivre au niveau mondial actuellement. Pour vous donner, donc ça c'était juste pour vous montrer l'échelle, hein, ces petites fourmis, c'est ces énormes camions qui sont utilisés dans le secteur minier. Donc 18 millions de tonnes, et il en faut 4 de ce type de mine pour arriver à obtenir ces 70 millions de tonnes en 2050. On peut maintenant comparer avec l'évolution prévue de la production mondiale, et je vais rester sur le cuivre. Pourquoi le cuivre ? Parce que, bon, évidemment, c'est un métal qui est absolument nécessaire dans le domaine électrique, pour toutes les applications électriques. C'est aussi un métal pour lequel on a un très très bon historique de production depuis les années 1900, et on connaît assez bien les ressources et les réserves de cuivre. Alors sur cette figure qui démarre en 1950, qui s'arrête en 2100, la ligne grise ici est l'historique de production de cuivre, hein, depuis 1950, de cuivre primaire. La deuxième ligne grisée est l'historique de production de cuivre recyclé depuis 1950. La ligne noire, maintenant celle-ci, c'est la prédiction qui est faite par un groupe de géologues, australiens, avec une augmentation de la production jusqu'en 2030, un pic en 2030 et une diminution de cette production. Je ne vais pas discuter ici de la validité de ces hypothèses, mais c'est des gens qui connaissent leur métier, hein, qui ont produit ça. Et puis la ligne pointillée ici, un recyclage du cuivre en partant d'un taux de recyclage actuel à environ 30% et en faisant l'hypothèse qu'on monte à 60% en 2070. Sur ces figures, maintenant, j'ai représenté en ligne colorée la différence entre la production mondiale et ce dont on a besoin pour les différents scénarios énergétiques. Donc finalement, la production de cuivre qu'on va réserver pour l'infrastructure d'énergie renouvelable se situe entre ces deux courbes. Elle est relativement raisonnable dans le cas de l'Agence internationale de l'énergie. Dans le cas d'Ecofis, vous voyez qu'on arrive quand même à des quantités qui deviennent significatives. Et puis dans le cas Garcia Olivares, ça devient quasiment n'importe quoi. On est à un quart de la production mondiale de cuivre qu'il faudrait réserver uniquement pour la production d'électricité. Ce bump ici indique simplement que j'ai considéré qu'en 2050, on gardait la puissance de production constante. Évidemment, ça c'est déjà énorme, mais c'est uniquement ça si on arrive à avoir des quantités de recyclage qui sont très significatives. Ça veut dire que dans tous les cas, il faut qu'on augmente le recyclage d'un facteur 3, voire d'un facteur 4 en quelques années. Et pour ça, il faut bâtir l'infrastructure de recyclage. Le recyclage ne va pas se faire comme ça en claquant des mains. Donc c'est plutôt optimiste comme scénario. Donc ce qu'on voit également, c'est que le pic de production de cuivre est exactement au moment où on a des besoins en cuivre les plus importants. Ce n'est pas très bon. Même chose, j'ai superposé toutes les courbes dans la même figure ici, pour l'acier, où on voit également qu'on a des besoins en acier à la fois primaire et secondaire qui sont très importants et qui arrivent à un moment donné où on devrait stabiliser ou diminuer en production au niveau mondial. Et puis pour l'aluminium, également la même géométrie. Donc la demande maximum pour les énergies renouvelables arrive au moment du pic de production. Elle est en concurrence avec d'autres besoins et notamment liée à la très forte urbanisation qui est prévue dans les années à venir. Il faut multiplier au moins par 3 la capacité de recyclage en 35 ans. C'est pas sûr que ça soit possible et comme l'a mentionné Jean-Marie tout à l'heure, cette possibilité de recyclage, c'est pas seulement un problème technologique, c'est aussi un problème économique. Alors, un exemple ici qui nous concerne parce qu'il s'est passé en France. En France, Solvay a ouvert 2 usines de recyclage de terres rares en 2012 avec une communication qui était basée sur la contribution d'un chimiste au développement durable. 4 ans plus tard, ces usines ont fermé. Solvay ferme ses usines pour 2 raisons. La première, le coût de production des terres rares qui était trop élevé au prix actuel des terres rares. Donc ce prix était très élevé en 2012, il a chuté pendant 4 ans et au prix de 2016, ça n'était plus intéressant. La deuxième raison, c'est le passage des luminophores, des lampes fluo compactes au LED. Solvay recyclait à partir des lampes fluo compactes. L'évolution technologique a fait qu'on est passé à un autre système, donc il n'y avait plus de ressources. Un autre exemple, en 2016, le fer primaire chinois, qui est produit à grand renfort de charbon, était compétitif par rapport à l'acier recyclé européen, qui lui est produit avec des émissions de gaz à effet de serre bien moins importantes. Mais en 2016, on voit aussi la première usine française de recyclage de pneus en hydrocarbures et en charbon qui s'est implantée sur notre territoire. Alors que la technologie était connue depuis longtemps, il s'agit d'une pyrolyse, en 2016, on sait faire ça à un coût rentable. Donc tout ça pour dire que quand on parle de matières premières, quand on parle d'énergie, la dimension économique doit absolument être prise en compte. L'économie, mais également une dimension géopolitique. Sur cette figure, j'ai classé ici les réserves connues de cuivre selon différents codes de couleurs qui correspondent à des niveaux selon les critères qui ont été proposés au niveau mondial de resource governance, qui implique à la fois des dimensions environnementales et puis des dimensions légales, notamment concernant les pratiques de production et ce genre de choses. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a au moins un tiers des réserves de cuivre ici connues, qui sont localisées dans des pays présentant des problèmes de gouvernance. Donc ça, c'est évidemment un risque supplémentaire d'approvisionnement. Ce n'est pas seulement parce qu'on a la réserve que l'on sera capable d'amener et de produire les matières premières dont on a besoin. Alors, cette situation, telle que je la décris, clairement, elle peut devenir encore plus problématique, ou en tous les cas encore plus... la pression peut augmenter, notamment parce qu'on développe des nouvelles technologies qui peuvent être très matériel intensives. Un exemple ici, les éoliennes dont j'ai parlé tout à l'heure, on envisage de les mettre sur des barges flottantes qu'on pourrait éloigner des lignes de côte pour avoir des conditions de vent meilleures, pour éviter l'ancrage au fond de la mer, etc. Cette barge pèse elle-même 1500 tonnes d'acier. Donc en fait, on double l'intensité acier dans ce cas-là, intensité qui est ramenée à une unité de puissance. Et puis parce qu'on a des besoins additionnels, évidemment. Moi, j'ai parlé ici de la production, mais il faut probablement parler du stockage, il faut parler du transport d'électricité. Pour vous donner un ordre d'idée, le 10-year development plan au niveau européen prévoit de construire 42 000 km de lignes haute tension uniquement en Europe d'ici 2025. Alors 42 000 km, c'est une fois le tour de la Terre, hein, et c'est uniquement pour l'Europe. Et puis, hormis le transport, il y a toute la partie distribution, où là, on ne peut pas substituer, par exemple, le cuivre à l'aluminium pour les habitations, pour les maisons, pour des raisons de sécurité, et ça, c'est des quantités énormes. Et puis, il y a aussi l'utilisation, évidemment, de ces matières premières, l'utilisation de l'électricité, où on a des besoins qui sont tout aussi importants. Donc, c'est entre 100 et 300 millions de tonnes de cuivre qu'il faudra prévoir d'ici 2050, qui représente entre 6 et 18 ans de la production 2010. Pour les matériaux des hautes technologies, la situation est encore plus préoccupante, au moins sur le court terme. Hein. Donc, plusieurs études ont montré que d'ici 2030, la demande en gallium, indium, sélénium, terbium, dysprosium, néodyme, praséodyme, etc., pour les cellules photovoltaïques et les éoliennes, devrait correspondre à une augmentation de 10 à 230% de la production 2010. Alors cela dit, pour ces petits métaux, cette production demande moins d'énergie en quantité, évidemment, puisqu'ils sont produits, enfin leur niveau de production reste relativement faible. C'est là où on peut faire des économies d'utilisation et d'amélioration les plus importantes. Quelques exemples, Hitachi en 2012 a produit des aimants permanents sans terre rare. Les moteurs à reluctance qui utilisent un électroaimant à la place d'un aimant permanent pourraient être une option pour les véhicules électriques de demain. L'efficacité énergétique des cellules photoélectriques a doublé en 10 ans. Donc ça aussi, évidemment, c'est un bon point. Donc la recherche et le développement ont vraiment un rôle à jouer. C'est beaucoup moins vrai pour l'acier, l'aluminium, le ciment, qui sont très peu substituables et qui sont vraiment des matériaux indispensables et produits en très très grande quantité. Des besoins additionnels, Jean-Marie en a déjà parlé. Actuellement, on couvre quasiment tout le tableau périodique pour les différentes utilisations de ces éléments dans différents secteurs de l'énergie. Ça peut être, j'ai mentionné les aimants permanents, ça peut être l'industrie du nucléaire, la catalyse, les économies d'énergie, la connectique, le stockage, etc. Donc tout ça, évidemment, je n'en ai pas parlé. Alors doit-on s'inquiéter ? Oui, de toute façon, il faut toujours au moins réfléchir à notre futur. Le scénario le plus exigeant, et je répète qu'il n'est pas réaliste, hein, de Garcia Olivares, demande pour 2050 environ 300 millions de tonnes de cuivre, 8 millions de tonnes de lithium, donc c'est bien supérieur à ce que tu as mentionné. Hein, mais cela dit, si on est sur des augmentations de 20% par an et qu'on double tous les 4 ou 5 ans, on arrive rapidement à des chiffres qui sont très impressionnants. 70 millions de tonnes de nickel, 31 millions de tonnes de platine, et une quantité tout autant considérable d'énergie pour produire ces ressources minérales. Cela dit, je répète qu'il existe d'autres scénarios qui sont beaucoup plus réalistes, et surtout, la part du recyclage ne doit pas être oubliée dans ces affaires. Alors, quelques mots sur le coût énergétique de la production des ressources minérales. Ça, c'est le cas de l'aluminium. Donc, la production d'aluminium, depuis 1920 jusqu'à 2100. Après la Deuxième Guerre mondiale, on était sur des taux de croissance de l'ordre de 7% par an. Une inflexion, une stabilisation entre les années 70 et 2000, quand les pays actuellement développés avaient bâti leur infrastructure. Et puis, on explose à nouveau au début des années 2000 avec l'entrée en jeu des briques et principalement le développement chinois. Ici, vous avez la quantité d'aluminium qu'il faut produire pour le scénario du WWF, environ 310 millions de tonnes. Donc, si on fait l'hypothèse d'une augmentation linéaire, on s'aperçoit, comme dans le cas du cuivre, que cette courbe pointillée est parallèle à l'augmentation qu'on a vue, tout secteur industriel confondu, entre les années 70 et 2000. Alors, si on parle d'énergie, l'énergie primaire pour produire l'aluminium est environ de 210 mégajoules par kilo. Donc, ça représente, ces 310 millions de tonnes, environ 10 milliards de barils d'équivalent barils de pétrole qu'il va falloir utiliser pour produire cet aluminium. Vous avez une idée en combien de temps on produit ces 10 milliards de barils de pétrole ? En un temps relativement court, de 5 mois. Voilà. Donc c'est pas. Enfin, je vous laisse décider si c'est beaucoup ou pas. Alors il faut faire attention toujours avec ces chiffres. Ici on parle d'énergie primaire. Or vous savez que pour l'aluminium c'est de l'électricité qu'on utilise. Donc en fait cette énergie primaire, elle est 210 mégajoules par kilo. L'énergie réellement utilisée, elle est de 90 mégajoules par kilo. C'est simplement la transformation d'une énergie fossile en électricité. La deuxième chose, c'est qu'il y a plein de manières de produire de l'électricité, et notamment la géothermie. Vous savez peut-être que l'Islande, actuellement, est un très très gros producteur d'aluminium, parce que l'Islande a une source géothermique, pas inépuisable, mais enfin, en tous les cas en abondance, on peut produire de l'électricité à prix réduit. Et donc, il y a beaucoup de gens qui amènent leurs minerais d'aluminium, et l'aluminium est raffiné de cette manière-là, sans émettre de gaz à effet de serre. Toujours est-il que si on rajoute à l'aluminium l'acier, le ciment, bien on arrive à 1,5 années de production d'équivalent de pétrole brut actuel, ce qui est quand même très significatif. La deuxième chose, c'est que cette augmentation de production de ressources minérales pose des contraintes importantes sur les scénarios énergétiques, et je vais essayer d'illustrer ça très simplement. Vous avez la situation 2010 ici, ou 2012, environ 90 000 térawattheures électriques de production au niveau mondial. 40% ici sont utilisés par l'industrie. Et parmi ces 40%, environ 25% sont utilisés pour la production d'acier, de ciment, d'aluminium et de cuivre. Ça, c'est la situation actuelle. Voici la situation en 2050, selon ces différents scénarios. Donc selon l'Agence internationale de l'énergie, on augmente la production globale d'électricité, alors que selon le scénario WWF, on la diminue. Et le fait de diminuer cette production globale d'énergie de 90 000 à environ 70 000 térawattheures fait que la production maintenant d'acier, de béton et de cuivre représente 50% de l'énergie utilisée par le secteur industriel. Et évidemment, si on passe de, disons, 25 à 50%, eh ben, il va falloir économiser beaucoup d'énergie. Où ça? On ne sait pas trop. Donc, à mon avis, ce scénario n'est pas viable simplement parce que ça ne permet pas de produire les matières premières dont on a besoin. Et on ne parle pas de produits exotiques ici, hein. On parle d'acier, de ciment et de choses comme ça. Donc, ces 29 300 TWh, à mon avis, sont trop faibles. On serait plus proche de ces productions-là, du scénario Garcia-Olivares, mais dans ce cas-là, c'est la quantité de matières premières qui devient problématique. Voilà. Bon, voilà. Alors, quelques mots encore sur le coût énergétique de la production. Pour produire une matière première à partir du sol, pour l'extraire du sol, on a une roche ici qui contient des minéraux qui eux-mêmes contiennent un métal. Donc, il faut d'abord extraire la partie minerai, extraire ce minéral, et ensuite faire la chimie qui permet de produire le métal. C'est clair ? Donc on a deux parties ici. On a une partie qui correspond à la dilution et que, dont le travail minimum pour extraire ce minéral varie en RT log de 1 sur la concentration. Et puis une partie ici qui correspond simplement à moins le delta G0 de formation du minéral à partir de ses composants. Alors je représente sur cette figure maintenant, en fonction de la concentration, on est à 100% ici de métal, et puis on diminue les concentrations en allant de la droite vers la gauche, la quantité d'énergie qu'il faut. Ici vous avez l'or et le platine, qui demandent des quantités d'énergie très importantes. Ici vous avez les oxydes communs de fer, d'aluminium, et de, je ne sais plus, le dernier, ça me reviendra. Mais vous voyez qu'on a une relation log normale, hein, en fonction de la concentration. Et puis la deuxième partie ici, la partie chimique, G de formation, suit cette évolution parce qu'on passe de minéraux natifs à des sulfures, sulfates et à des oxydes, dans ce cas-là. Alors quand on fait la somme de ces deux contributions, on obtient, ben on voit pas, on obtient une ligne jaune qui est de ce type-là, et les données réelles sont représentées ici, puisque ça c'est une quantité minimum, hein, et ça c'est les données réelles, donc on s'aperçoit qu'il faut multiplier la quantité minimale par 5 pour avoir les données réelles, ça nous donne une idée de l'efficacité de la métallurgie et du concassage des roches actuellement, qui est d'environ 20%. Donc il y a matière à aller avoir une amélioration. Ce genre de formalisme nous permet également de voir que dans le cas du cuivre, on était, il y a une centaine d'années, disons dans les années 1920, on utilisait du cuivre concentré à 3%. Actuellement, on est passé sous les 1% au niveau mondial. Donc on voit que les jours sombres sont devant nous, puisqu'on rentre dans une zone où l'augmentation de l'énergie pour produire le cuivre devient très importante avec une diminution de la concentration. Et vous voyez cette diminution de la concentration, hein, 3% en 1900 au niveau mondial. Actuellement, on est passé sous 1% et on va rapidement arriver dans des zones encore plus faibles, ce qui va poser des problèmes énergétiques certains. Alors, il ne faut pas être complètement négatif non plus. Hein. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'industrie métallurgique, que ce soit en pyrométallurgie ou en hydrométallurgie, fait des progrès énormes. Hein. La production d'acier demandait 60 mégajoules par kilo dans les années 50 jusqu'à 70. Actuellement, on est plutôt à 20 mégajoules par kilo. Donc il y a clairement une amélioration des technologies, mais dans le même temps, on produit des aciers techniques de plus en plus compliqués, avec de plus en plus d'alliages, donc d'une part qui sont plus difficiles à recycler, ça a été mentionné avant, mais qui sont également très énergivores à produire. Par exemple, l'industrie automobile utilise des aciers qui demandent une cinquantaine de mégajoules par kilo pour être produits, et ça monte jusqu'à 300 mégajoules par kilo pour des aciers inox, par exemple. Alors, bon, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous convaincre que les prix, les réserves, les coûts de production sont couplés, et tout ça, ça bouge au cours du temps, donc c'est dynamique. Si on regarde le prix du cuivre, entre 1900 et 2015, ben, vous voyez qu'il y a des gros pics, hein, ça change, mais d'une manière générale, quand même, on est relativement stable, on est aux alentours de 3 000 $ la tonne, en dollars 98, alors que les concentrations ont largement chuté. Donc si on arrive à garder un prix constant, c'est clairement de l'amélioration technique. technologique. Ça a un impact ça a un autre impact très important, c'est que si on est capable d'extraire du cuivre dans des roches à 3% au même prix, eh bien, on augmente les quantités de réserves disponibles, puisque la quantité de cuivre disponible à faible concentration est beaucoup plus importante que la quantité de cuivre disponible à haute concentration. Donc ça nous permet d'augmenter les réserves. On avait 25 millions de tonnes de cuivre de réserve en 1900. Actuellement, on est à 750 millions de tonnes. Mais ce n'est pas du tout indicatif d'abondance, parce que dans le même temps, on augmente la quantité d'énergie à utiliser pour le produire. On augmente donc les émissions, évidemment, et ça, tôt ou tard, ça aura un impact sur le prix, et évidemment, tout ça est couplé. Donc le prix, les réserves, les coûts, la demande, la production, l'intensité énergétique, la part du recyclage par rapport à la production primaire, les technologies, les enjeux géopolitiques, les impacts environnementaux sont des choses couplées et varient au cours du temps. Tout ça, c'est dynamique. Et si on veut avoir une vision du futur à peu près raisonnable, eh bien, il faut absolument avoir une possibilité de modélisation qui intègre tous ces aspects. Et une modélisation qui est capable de reproduire ce qui s'est passé depuis 1900. Il n'y a aucun modèle économique qui est capable de faire ça actuellement. Alors, un exemple, très brièvement, de ce type de modélisation. Nous, on utilise des modèles qu'on appelle proies prédateurs, qui sont dérivés de l'écologie des populations. Vous connaissez peut-être ça. Donc, on a des loups et des moutons ici. Et quand les loups et les moutons commencent à jouer ensemble, eh bien, le nombre de moutons et le nombre de loups varient de manière cyclique. C'est-à-dire le nombre de proies ici augmente et puis diminue, et le nombre de prédateurs est décalé. Quand les proies diminuent, le nombre de prédateurs diminue. Quand le nombre de prédateurs diminue, le nombre de proies augmente, etc. Donc ça, c'est assez bien décrit avec deux équations différentielles qui sont couplées. Ça, c'est l'évolution de la population de lapins ou de moutons ici, l'évolution de la population de nous avec un taux de natalité et un taux de mortalité. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on peut faire l'analogie directe avec les ressources minérales en disant la proie, c'est la ressource qu'on va chercher dans le sol, et ça va être l'évolution de la ressource au cours du temps, et puis le prédateur, c'est la richesse ou le capital de l'industrie productrice, et l'évolution de ce capital est donnée par cette deuxième équation. Donc on a un terme qui correspond à la régénération de la réserve. Alors évidemment, les réserves fossiles ne se régénèrent pas comme des loups ou comme des lapins. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a une régénération constante au cours du temps depuis une centaine d'années, avec un taux de croissance qui est assez constant et qui suit celui de la production, qui est dû à deux facteurs, deux nouvelles découvertes, et je répète, la diminution des concentrations des gisements exploités. Ça, c'est la partie production de métal, donc c'est en tonnes par année. Cette partie-là, c'est la création de capital, donc c'est les revenus de l'industrie minière, par exemple, et ça, c'est les coûts de production. Donc deux équations extrêmement simples, et on peut faire apparaître le prix qui est égal au coefficient de natalité des prédateurs, donc la création de capital, sur la production de métal. Je ne rentre pas dans le détail. Mais ce genre de modèle très simple nous permet de reproduire les évolutions historiques, par exemple, et je reste sur le cas du cuivre ici, les évolutions de production. Donc les observables sont en jaune ici, les résultats du modèle sont en noir. Donc vous avez les évolutions de production, de réserve, de prix, de coûts de production, des revenus industriels et des profits de l'industrie minière. Donc ça, c'est pour le primaire. Et on peut faire la même chose pour le recyclage ici, où on reproduit également des observables de type stock de cuivre dans l'anthroposphère, quantité de cuivre perdu ou quantité de cuivre qui va rejoindre les produits en fin de vie au cours du temps. Et une fois qu'on a ce genre de modèle, eh ben on peut regarder, on peut le laisser tourner, regarder ce qui se passe dans le futur. Alors voilà un scénario possible, c'est un scénario possible qui vous montre que la production ici de cuivre devrait effectivement atteindre un pic en 2030-2040, comme le disent les géologues, et puis après on observe une diminution. Alors ça, c'est un calcul qui est fait avec des données actuelles, c'est-à-dire en gardant le prix du cuivre constant, en ne modifiant pas la technologie, et c'est simplement une approche business as usual. Il est bien évident que si le prix du cuivre augmente, ce pic sera repoussé vers des temps plus lointains, hein, puisque tout ça est couplé. Et puis il y a d'autres scénarios, un scénario de ce type-là, où la demande se tasserait en 2030, et donc on arrive, pas à un pic, mais dans ce cas-là, on arrive à un plateau. Donc on a toute une zoologie de futurs possibles, et la difficulté est de ne pas être trop catégorique et de ne pas trop crier au loup quand on voit ça, parce qu'on ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer. Ce qui est important, c'est de comprendre tous les couplages ici. Donc il faut s'inquiéter, bien sûr, il faut se poser des questions, mais pour les bonnes raisons. Oui, d'autres choses que vous verrez probablement dans la littérature, hein, la production primaire ici pique et diminue. On estime nos besoins, pas seulement pour l'énergie, mais tout besoin confondu, à ce carré gris ici, donc aux alentours de 30 millions de tonnes. On voit qu'on est en dessous, et donc ça inquiète beaucoup les gens. Mais ce que les gens oublient ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on a cette partie de recyclage, et si on prend à la fois le primaire et le recyclage, bien on obtient cette courbe-là qui monte largement au-dessus des besoins qu'on estime actuellement. Donc je répète, le recyclage ici, c'est vrai pour le cuivre, c'est vrai pour l'acier, c'est vrai, bon, c'est pas vrai pour le béton malheureusement, mais c'est vrai pour tous les métaux. Le recyclage est vraiment une clé importante pour notre futur. Alors la question, c'est le recyclage, il deviendra important, et il deviendra important quand le stock de produits en fin de vie, c'est-à-dire nos futures poubelles, seront en quantité assez importante. Mais la question, c'est où se fera ce recyclage ? Et ça, c'est une question qui est prégnante, parce que pour arriver à augmenter le recyclage comme ça, il faut qu'on ait accès à une quantité de produits en fin de vie très importante au même endroit, il ne faut pas que ça soit dilué, et qu'on ait évidemment l'infrastructure pour recycler. Alors c'est des chiffres qui sont un peu vieux, hein, ici, mais ce qu'on voit, c'est qu'en tous les cas, dans les années, disons, entre 2005 et 2010, énormément de produits en fin de vie étaient exportés, et c'est particulièrement vrai pour ce qu'on appelle les e-waste, donc tout ce qui est ordinateur et produits électroniques. Par exemple, en 2005, il y a eu une inspection de 18 ports européens par les douanes, hein, qui a montré qu'environ 50% de ces poubelles électroniques exportées l'étaient de manière illégale. 75% de ces produits exportés sont encore fonctionnels. Et ce qu'on s'aperçoit quand on regarde les choses un peu d'un œil un peu acéré, c'est qu'on a environ 3 millions de tonnes de cuivre par an qui sont importées par la Chine, qui ne recycle plus de cette manière-là maintenant, mais qui, elle, bâtit vraiment son infrastructure de recyclage. Donc ça veut dire que 3 millions de tonnes par an, c'est environ un tiers de tout ce que l'on met dans nos déchets. Donc ça veut dire que la Chine est actuellement un très gros producteur de matières premières primaires, et que demain, elle pourrait devenir également un très gros producteur de matériel, de matières premières secondaires. Voilà, donc en conclusion de ce petit exposé, 14 matières premières ont été qualifiées de matières premières critiques par la Commission européenne en 2010. En 2020, 20, donc on est passé de 14 à 20 métaux principalement critiques. La criticité ici représentant l'importance pour l'industrie et pour nos industries en Europe multipliée par le risque d'approvisionnement, qui lui-même est fonction de l'éventuelle pénurie. Sur ces 14 matières premières, c'est des matières premières qui souvent n'étaient pas utilisées dans l'industrie il y a une trentaine d'années. Il y a 40 ans, les terres rares étaient utilisées principalement dans les pierres à briquet. Donc on a une très mauvaise connaissance des réserves de ces matières. Jean-Marie a dit tout à l'heure qu'on avait 40 millions de tonnes de réserves estimées, hein, au niveau mondial. C'est la valeur actuelle. Il y a 5 ans, je pense qu'on était à 2/3 de cette valeur-là, hein. Donc les réserves changent très rapidement. Souvent, ces métaux sont des sous-produits de production d'autres métaux qui portent la valeur économique de la mine. Donc si le métal pour lequel la mine est conçue n'a plus de valeur, et si on arrête la production, on arrête directement la production de ces sous-produits. On a peu ou pas de recyclage sur ces produits-là. Ils sont utilisés dans des technologies en développement très rapide qui changent les utilisations au cours du temps. On l'a vu par exemple pour les lampes fluocompactes qui contenaient des terres rares. Quand on est passé au LED, le recyclage n'était plus possible. Et c'est ces technologies qui présentent les potentiels de réduction, d'usage et de substitution les plus importants. Et puis à l'autre bout du spectre, on a ces matières premières de base dont je vous ai parlé aujourd'hui qui n'inquiètent personne, qui ne montrent pas de signes de pénurie, peut-être excepté le cuivre, qui présentent des niveaux de recyclage élevés. L'acier, l'aluminium sont recyclés, on va dire, à 50% ou un petit peu moins au niveau mondial. Donc, ils sont jugés comme étant de criticité très basse. Pourtant, elles sont produites en quantité énorme. Elles ont des impacts environnementaux et des besoins en énergie pour les produire qui sont tout aussi énormes. Pas de substitution possible. On ne va pas faire une éolienne de 150 mètres de haut en carton ou en bambou. À part l'acier ou le béton, je ne vois pas ce qu'on peut utiliser. Donc, à mon avis, mais ça, c'est ma vision assez personnelle, les vrais enjeux, au moins sur le long terme, sont probablement sur ces matières premières-là, même si, évidemment, comme l'a dit Jean-Marie Tarascon avant, recycler le lithium est évidemment quelque chose d'absolument nécessaire. Puis la deuxième conclusion, c'est que ce qu'on a pu faire, évidemment la transition vers un monde sans émissions à gaz à effet de serre est absolument nécessaire, mais il ne faut pas croire que c'est gratuit. Il y a un coût ici, et donc ça a un coût énergétique, ça a un coût aussi en émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il faut produire une nouvelle infrastructure. En termes de ressources, et là j'inclus l'eau, ce n'est pas seulement un problème d'énergie, il y a l'eau qui est un vrai problème. Dans toutes les activités minières, on utilise beaucoup d'eau. Ce coût doit être évalué, évidemment, en fonction de la disponibilité des matières premières, bien sûr, mais aussi de leur énergie, de l'eau, les impacts environnementaux, etc., pour essayer de définir quel est le meilleur scénario. Ce qui a été possible dans le passé, donc doubler la production tous les 20 à 30 ans, ne sera pas forcément possible dans le futur. Et ce n'est pas seulement un problème de réserve, mais c'est aussi un problème de conditions sociales, environnementales, et les implications économiques. Et il faut absolument qu'on anticipe ça. Et il faut qu'on anticipe dans nos pays qui ne produisent pas de ressources un recyclage massif, et il faut qu'on garde nos poubelles à la maison. Et puis des aspects de modélisation, à mon avis, qui manquent cruellement sur ces thématiques-là, avec des prédictions et des prévisions qui sont souvent pas assez robustes à cause de ce manque de modèles. Voilà. Je vous remercie de votre attention.